BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, willkommen, bonjour et bienvenue à tous dans ce magazine consacré à l'actualité de la République fédérale et du monde. Dans quelques minutes, on sera justement en Israël. Les législatives sont toutes proches sur place et le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait tout pour garder sa place. On prendra aussi des nouvelles des réfugiés congolais, un temps menacés d'être expulsés de l'État hébreu. Mais d'abord, on commence par l'actu en Allemagne. Culture, histoire, colonialisme, ça se passe à Berlin.
DW.
C'est une nouvelle polémique qui éclate en ce début d'année autour du Humboldt Forum dans la capitale allemande, autour d'une salle du silence précisément. Alors on va y revenir, mais d'abord un petit retour en arrière et explication de contexte. Le Humboldt Forum, on vous en a déjà parlé, c'est ce musée qui doit ouvrir cette année à Berlin. Musée dédié aux cultures extra-européennes, à toutes les œuvres en fait ne venant pas d'Allemagne. Mais depuis le début, il fait polémique de par son lieu. Déjà, il sera situé sur la place de l'ancien château de Berlin reconstruit. Château à l'histoire chargée, détruit, reconstruit au fil des siècles. Il a notamment abrité les princes prussiens colonisateurs allemands. Un tel lieu pour abriter des œuvres venant des anciennes colonies allemandes est donc inadmissible pour certains. Ensuite, l'idée même d'un musée dédié aux cultures extra-européennes fait polémique. Dès 2013, au lancement du projet, un collectif demandant un moratoire sur ce Humboldt Forum était créé. Dans un long texte traduit en de très nombreuses langues, les signataires demandaient à ce que, plutôt qu'un musée, on réfléchisse à la restitution des œuvres d'art du monde entier situées en Allemagne, y compris celles africaines, comme les bronzes du Bénin par exemple.
La majeure part des plus de 500 000 pièces d'exposition en provenance du monde entier a rejoint la ville de Berlin dans le cadre des conquêtes coloniales. Nous demandons que la lumière soit faite sur les circonstances d'acquisition de toutes les œuvres d'exposition et exigeons le respect des résolutions sans équivoque des Nations Unies relatives à la restitution des objets d'art aux pays touchés par des actes d'expropriation.
Plus de 5 ans après, le projet a avancé, non sans polémique. Il y a un an et demi, l'historienne Bénédicte Savoie démissionnait même du conseil consultatif du musée, dénonçant un lieu basé sur 300 ans de collection, avec toutes les abominations et les espoirs qui viennent avec. C'est ce qu'elle disait à l'époque. Et c'est donc, on en vient à notre sujet de départ, c'est donc pour dépasser ces critiques qu'en ce début d'année, un groupe de travail propose de créer un lieu de mémoire, une salle du silence au Humboldt Forum, un lieu pour réfléchir, laisser libre cours à ses pensées et à la réflexion sur le temps de la colonisation. C'est ce que dit ce groupe de travail. De quoi réfléchir par exemple au massacre des Herero et Nama, massacre perpétré par les colonisateurs allemands du sud-ouest africain, aujourd'hui la Namibie. Entre 90 000 et 100 000 Africains ont été tués sur place entre 1904 et 1908. Un tel lieu de mémoire, une salle du silence, aurait donc sa place dans le futur musée, selon le chercheur namibien et allemand, spécialiste de l'Afrique, autour de qui s'est faite la proposition, Henik Melber.
Parce que la période coloniale allemande n'a pas été suffisamment étudiée, travaillée. Le Humboldt Forum est un lieu où on pourra voir des œuvres qui ont été volées dans les pays du Sud, à l'époque du colonialisme allemand. Ce serait donc un point de départ pour se rappeler qu'il y a un chapitre de l'histoire allemande qui n'a pas encore été traité bien avant l'Holocauste.
Une idée bien accueillie par la fondation en charge de ce Humboldt Forum, mais qui ne rencontre pas que des échos positifs. Donc, le militant Nyaka Surumboro, originaire de Tanzanie par exemple, ne cache pas son opposition à cette idée.
Je ne veux pas qu'on essaie d'installer une salle de silence à l'intérieur. C'est inacceptable pour moi. Il semble qu'il s'agisse plutôt d'une publicité pour le Humboldt Forum, mais ça ne répond pas à nos souhaits, nos demandes de parler du colonialisme et de l'esclavage.
Nyaka Surumboro propose plutôt un monument public à la mémoire des victimes du colonialisme et de l'esclavage, une opposition partagée par des historiens allemands comme Jürgen Zimmerer.
Ce qui me préoccupe, c'est que cet espace, s'il existe, ne favorisera pas fondamentalement le travail sur le colonialisme, mais plutôt l'entravera dans le sens où les gens diront « nous avons un espace commémoratif et dans le reste du Forum Humboldt, nous n'avons donc pas à traiter de cela ». Au-delà du Forum Humboldt, nous avons aussi besoin d'un site commémoratif central pour les victimes du colonialisme allemand.
außerhalb an zentraler Stelle machen.
Pour l'heure, le débat reste ouvert, pas tranché encore précisément. Le responsable du groupe de travail initiateur de l'idée, Annick Melber, a en tout cas entendu les critiques. Il estime qu'un lieu de silence, une salle de réflexion, n'empêchera pas le débat sur la colonisation de se poursuivre à haute voix. Deutsche Kolonialverbrecher werden geehrt, man ihre Namen auf Straßenschildern, sie nerven mich sehr. Sie begangen grausame Taten, hatten keinen Respekt. Die Spuren der blutigen Kolonialzeit müssen weg, denn wir kämpfen für unsere Vorfahren. Heben die von uns für eine Veränderung und geben die auf. Einer für alle und alle für ein, in Erinnerung an die Opfer der grausamen Zeit. Spuren der Kolonialzeit, traces du colonialisme de Matondo, rappeur berlinois qui appelait en 2017 notamment à changer des noms de rues à Berlin. Rues, on vous en a déjà parlé, portant les noms des colonisateurs. Cela devait être fait très prochainement, c'était décidé, hein, ça avait été voté, mais un recours a été déposé par des habitants insatisfaits à cause de problèmes administratifs notamment. C'est compliqué de changer d'adresse vis-à-vis des banques ou des administrations dans un pays très procédurier, tout en restant en fait dans le même logement. Dossier à suivre donc, dont on reparlera prochainement dans Vue d'Allemagne. Deutsche Kolonialverbrecher werden geehrt, man ihre Namen auf Straßenschildern, sie nerven mich sehr. Sie begangen grausame Taten, hatten keinen Respekt. Die Spuren der blutigen Kolonialzeit müssen weg, denn wir kämpfen für unsere Vorfahren. Geben die von uns für eine Veränderung und geben die auf. Einer für alle und alle für ein, in Erinnerung an die Opfer der grausamen Zeit. Ich möchte nicht durch die Straße eines Verbrechers laufen oder durch Straßen fahren, die Menschen beleidigen. Bist du auch dagegen, dann komm mit, weil wir noch Kämpfer brauchen. Denn es gibt Leute, die solche Verbrecher verteidigen. Viele Orte haben einen Bezug auf deutschen Kolonialismus, doch Politiker drücken ein Auge zu. Man sollte diese Straßen mit Namen ersetzen von Leuten, die dagegen waren und den Afrikanern was bedeuten. Denn die Kolonialzeit darf man einfach nicht vergessen, doch nicht indem man Leute ehrt, die ganze Länder besetzten. Völker massakrierten, ihre Bodenschätze klauten, Diamanten und Rohstoffe in großen Mengen raubten. Über Straßen, die mit dem Namen Menschengruppen versprochen, wird von keinem einzigen großen Politiker gesprochen. Darum lege ich wieder mal alle Fakten auf den Tisch, denn in der Schule lernt man von diesen ganzen Sachen nichts. Allez, tout autre sujet maintenant pour cette deuxième partie de ce magazine, on part en Israël. L'actualité s'emballe, comme on dit, sur place. Le système d'interception aérien de roquettes a été déployé il y a quelques jours sur place suite aux regains de tensions à Gaza et en Syrie. Israël réclame dans un tout autre dossier aussi des milliards de dollars à l'Iran. Et tout cela se passe dans un contexte électoral, élection législative anticipée début avril où le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait tout pour garder sa place. Malgré les accusations de corruption autour de lui, il ne lâche rien. Comme nous le raconte aujourd'hui Hélène Machlin depuis Jérusalem.
À 73 jours des élections législatives, la campagne bat son plein. Et malgré ses ennuis avec la justice, Benjamin Netanyahou reste favori dans les sondages. Le Premier ministre se considère comme la victime d'une chasse aux sorcières politiques impliquant l'opposition, les médias et la police. Il veut se faire réélire en avril, précisément au moment où le procureur général devra décider s'il doit l'inculper ou non dans 3 affaires de corruption. En attendant, il tente par le biais des réseaux sociaux et des médias de convaincre les électeurs de son innocence. Le 7 janvier, Benjamin Netanyahou s'est même adressé au peuple israélien lors d'une annonce télévisée en direct.
Ce soir, je me dévoile devant vous. Pendant les enquêtes contre ma personne, j'ai demandé, en vain, à plusieurs reprises aux enquêteurs, une confrontation avec les témoins à charge. Cette confrontation m'a été refusée. Qu'ont-ils à cacher ? De quoi ont-ils peur ? Je souhaiterais que cette confrontation se passe en direct dans une émission télévisée afin que le public puisse entendre et voir toute la vérité. Moi, je connais la vérité et je suis sûr de la vérité à 40 000%.
L'escalade de la violence actuelle au sud et au nord du pays permet aussi à Benjamin Netanyahou de redorer son blason auprès de la population israélienne. Il se présente en effet comme le seul leader capable de sécuriser les frontières du pays. Vendredi 25 janvier, le Premier ministre a même tenu à répondre aux propos du général iranien Qassem Soleimani, qui affirmait la veille que les tirs iraniens à l'intérieur du territoire israélien pourraient faire tomber Netanyahou lors du vote du 9 avril.
Au lieu d'interférer dans les élections israéliennes, le général iranien Qassem Soleimani ferait mieux d'examiner l'état des bases iraniennes qu'il tente de mettre en place en Syrie. Notre politique est claire et ne changera pas. aussi longtemps que je serai Premier ministre, je continuerai à me battre contre la menace de l'Iran envers l'État d'Israël.
D'ailleurs, Israël se prépare à réclamer des indemnisations à l'Iran ainsi qu'à 7 pays arabes en compensation des biens abandonnés par les Juifs originaires de ces pays. Le docteur Eddy Cohen, orientaliste de l'université israélienne Bar-Ilan, membre du comité qui a évalué les pertes des Juifs qui ont fui les pays arabes, nous explique.
Il y a 1 million de Juifs qui habitaient, et moi aussi j'étais un parmi ces Juifs-là, dans le monde arabe au XXe siècle, durant le XXe siècle. Des dizaines de milliers qui ont été chassés et qui n'ont pas pu vendre leur maison. Il y a le gouvernement égyptien, par exemple, a chassé les Juifs, a confisqué leur argent. Et il y a le gouvernement irakien aussi, a confisqué les propriétés de la communauté juive et les propriétés privées des Juifs irakiens. Donc, il y en a, c'est de l'injustice. Et on n'a pas oublié, ici en Israël, on n'a pas oublié la tragédie des Juifs du monde arabe.
Certains estiment que la question est mise en avant par Israël comme outil de négociation avec les Palestiniens, qui réclament eux aussi des indemnisations pour les propriétés et les biens qu'ils ont abandonnés lors de la fondation de l'État hébreu.
Merci Hélène, et puis comme on est avec vous en Israël, vous nous donnez des nouvelles concernant encore les réfugiés congolais sur place. On avait beaucoup parlé l'an dernier, ils devaient être expulsés le 5 janvier cette année, normalement, en 2019. Un décret gouvernemental estimait qu'il n'y avait plus d'obstacle au retour de ces réfugiés dans leur pays d'origine. On en est où sur ce dossier aujourd'hui ?
Le 31 décembre, un juge israélien a réussi à geler in extremis le projet d'expulsion des Congolais. 6 ONG israéliennes ont en effet saisi la justice, faisant référence aux élections congolaises qui se sont terminées dans un bain de sang et surtout au risque de guerre civile à venir. Hélène McLean, à Jérusalem, pour la Deutsche Welle.
Voilà, on espère tout de même que la situation n'en arrivera pas à un tel point. Merci encore Hélène McLean depuis Jérusalem. Merci aussi tout particulier aux confrères et aux consoeurs à Bonn et ailleurs qui m'ont aidé à réaliser cette émission cette semaine. Daniel Pels, Camille Joannick et toute la rédaction francophone. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, alles Gute, portez-vous bien. Tschüss, à la semaine prochaine.